Alors ce matin, la Bible va nous donner des réponses à des questions que plus personne ne se pose. Du moins, s'il me semble. Dans ces dernières années, pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres? Les conflits autour de la pauvreté, les questions, on a l'impression que plus personne ne se les pose. Et qu'est-ce qui se passe après la mort? Non plus, ce n'est pas une question qui inquiète particulièrement nos concitoyens. Alors, ces questions-là, vous savez, quand on prépare des examens, on est au lycée ou on est dans l'université, et puis on voit tout à coup qu'on peut pas tout apprendre parce qu'il y a trop de matière à voir. Alors, ce qu'on fait, des fois on fait des impasses, tant pis, cette question, ce sujet, je vais pas le traiter, je vais pas le préparer en espérant que je tomberai pas dessus. Et notre société fait l'impasse comme ça sur certaines questions. Alors c'est un peu stupide, parce que ces questions, c'est sûr que la question de ce qui se passe après la mort, c'est sûr que cette question est posée. Tôt ou tard, on aura affaire à cela, on ne pourra pas y échapper. Alors je vous propose de lire le texte de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, une parabole qui est bien connue du Seigneur Jésus. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 dans nos Bibles. Jésus commence ainsi, verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et au proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. » Maintenant ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre vous deux, entre nous et vous, pardon, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Le riche dit, alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères et qu'ils leur apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. L'autre reprit, non Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Le titre que j'ai choisi pour ce passage, Richesse et pauvreté, enfer et paradis selon la Bible. Alors, considérons en premier temps le récit de Jésus-Christ, ensuite nous regarderons un peu le contexte, comment cette parabole, ce récit se situe dans le discours de Jésus. Et enfin, on verra, comme on le fait habituellement, quelques conséquences pour aujourd'hui. Alors, est-ce une parabole ou est-ce une histoire vraie? C'est la question qu'on peut se poser parce que ce qui est différent dans cette parabole par rapport à toutes les autres, c'est que un des personnages, Lazare, le pauvre, s'appelle Lazare. Il a un nom. Lazare, ça signifie « Dieu a secouru ». Et non seulement cela, on trouve, il existe un papyrus, un très ancien texte qui donne un nom aux riches. Sur ce papyrus, il s'appelle Neès. Alors, une parabole ou une histoire réelle. En tout cas, on peut être certain que Jésus, lui, ne ment pas. Regardons d'abord la situation du riche et de Lazare sur la terre. Alors, le riche, hein, il s'habille de pourpre et de fin lin. Et puis, voilà, sa vie n'est que fête, que joie. Et puis, c'est quelque chose qui est visible. Hein. Il ne se cache pas, il est... voilà, il est brillant. Il assume sa richesse. Et dans le contexte, vous avez compris que c'est un Israélite, un membre du peuple élu. C'est intéressant de souligner cela. Et puis il y a Lazare, il est pauvre, il a faim, il a besoin de soins, il a des ulcères sur tout le corps. Et on peut imaginer cette scène. Prenez le temps de l'imaginer. Prenez le temps d'imaginer Lazare couché à la porte du riche. Et voilà, les chiens viennent le lécher ses plaies. Jésus appelle Lazare le pauvre par son nom. Il l'appelle Lazare. Et en faisant cela, d'un coup, d'un seul, il lui rend puissamment sa dignité d'être humain. Le pauvre a un nom. Et dans notre contexte, c'est aussi un Israélite, un membre du peuple élu. Lazare et le riche sont mis en relation. Le mot traduit par coucher ici, c'est un mot spécifique pour les personnes qui sont malades. Et c'est le mot jeter. Ailleurs, vous trouverez ce mot qui a le sens de jeter. Et c'est une voix passive ici. Alors, on peut imaginer que Lazare a été jeté là, devant la porte du riche. Il est malade. Il est couché là comme un malade. On est loin de l'image du SDF qu'on trouve des fois à la porte, à Villefranche, à la porte de la poste. Il y en a souvent qui se mettent là et qui demandent des pièces. On voit que c'est pas du tout de ça ici. Chazi, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Le riche et Lazare sont mis en relation, et qu'est-ce que produit cette relation? Lazare, lui, il est désireux de ce qui tombe par terre. Il s'agit même pas des restes du repas, il s'agit de ce qui tombe de la table, il s'agit des miettes, il s'agit de ce qu'on balaie quand le repas est fini. Voilà ce qui ferait le bonheur de Lazare. Aucun pauvre ne veut rester pauvre. Aucun pauvre ne se complaît dans la pauvreté. La Bible n'enseigne jamais la pauvreté comme étant un idéal à atteindre. Pas du tout. Le riche est indifférent envers Lazare. Rien ne lui sera donné, ni les restes du repas, de ses repas, ni les balayures. Le riche va finir sa vie riche dans un beau tombeau et le pauvre va finir sa vie à la fosse commune. De cette rencontre qu'il y a là entre Lazare, entre le pauvre et le riche, entre Lazare et ce monsieur, ah ben il ne va rien se produire. Il ne va la situation ni de l'un ni de l'autre ne va changer. La mise en relation ne change rien. Regardons maintenant la situation du riche et de Lazare dans l'au-delà. C'est la suite de notre texte. On voit ici que les Israélites sont, tous les deux sont des Israélites, ils sont séparés dans l'au-delà. Il y a des Israélites qui ont la foi en Abraham, qui sont dans le sein d'Abraham. On pourrait dire qu'ils sont, aujourd'hui on dirait qu'ils sont collés. Ils sont collés à Abraham, comme des enfants sont des fois collés à leurs parents. Et de l'autre côté, il y a les Israélites, les autres Israélites que David appelle les méchants, les insensés. Ils étaient loin de Dieu sur la terre. Ils sont loin de Dieu dans l'au-delà. Ils étaient loin de Dieu sur la terre. Ils sont loin de Dieu dans l'au-delà. Le riche. Le riche, il arrive dans un endroit de souffrance et ce qui faisait sa joie sur la terre, les richesses ne l'ont pas suivi dans le séjour des morts. Et il souffre beaucoup de cela. La nouvelle situation du riche, en fait, ne change pas beaucoup, si ce n'est que les richesses ne sont plus là. Il ne change pas. Malgré qu'il connaisse le nom de Lazare, qu'il connaisse cette personne qui était à sa porte, malgré qu'il le voit dans le sein d'Abraham, il le voit toujours Lazare comme étant son serviteur. C'est toujours un serviteur, un esclave, quelqu'un à qui on dit fais ceci, fais cela. Il ne manifeste non plus aucun signe de repentance quant à son passé égoïste. On ne voit pas non plus de révolte par rapport à sa situation. Il accepte cela, semble-t-il, comme Lazare acceptait sa situation sur terre. Il demande compassion, comme sans doute Lazare demandait compassion quand il était sur terre. Lazare, lui, il est consolé. Après la souffrance d'ici-bas, il connaît la juste consolation de Dieu. Et peut-être, on dit quelqu'un peut-être dans les souffrances, se maintient dans les souffrances injustes. Et il n'y a personne qui s'occupe de vos plaies, sauf les chiens. Et vous êtes là bien malheureux. Mais Dieu est juste. Et il sait consoler mieux que personne sur la terre. Lazare est consolé après les souffrances d'ici-bas. La situation du riche et la situation de Lazare, et ils sont séparés l'un de l'autre. La mise en relation est terminée, il y a maintenant une séparation infranchissable entre le juste, Lazare, et entre l'égoïste, riche. On voit que là, le riche a manqué ce rendez-vous avec Lazare. Il a manqué son rendez-vous. C'est peut-être une raison pour laquelle son nom n'a pas été retenu par le Saint-Esprit qui a dirigé, présidé à la rédaction des évangiles. La mise en relation est terminée, mais elle a laissé des traces. Le riche voit continuellement Lazare et son bonheur. comme sur la terre, il le voyait continuellement à sa porte dans son malheur. Par contre, on peut supposer, à la lumière des autres textes de la Bible, que Lazare, lui, ne voit pas le riche. Le psaume 16 précise cela. À la fin du psaume 16, on lit « Il y a d'abondantes joies devant ta face éternelle, un bonheur éternel dans la présence de Dieu. » Loin de Dieu sur la terre, loin de Dieu dans les ciels, et un rendez-vous manqué pour le riche et pour Lazare. Voilà ce que j'ai noté pour la situation du riche et de Lazare dans l'au-delà. La Bible enseigne le chemin du ciel. Abraham rappelle que la Bible nous est donnée pour notre salut. Et l'Ancien Testament est clair, a des instructions très claires, comme celle-ci, Proverbe chapitre 3, 27, 28, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi donner. » Ou bien, le prophète Ésaïe, L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne. Les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. De quel droit piétinez-vous mon peuple et écrasez-vous la dignité des pauvres? Chapitre 3, versets 14 et 15 de son livre. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et Abraham précise que le témoignage d'une personne qui reviendrait des morts ne changerait rien. Ce n'est pas ce qui sauverait les hommes. Et si on parle de ce qui se passe après la mort, il y a tellement de témoignages, de choses qui ont vécu des expériences, de morts imminentes, pas définitives comme cela avait été le cas pour Lazare. Mais non, les soldats ont bien assisté à la résurrection de Jésus, mais c'est la foi en Jésus-Christ, selon ce que dit la Bible, qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ, selon ce que dit la Bible, selon les Écritures, qui sont. Alors voyons maintenant le contexte de cette parabole, le texte qu'il y a autour. Il y a des connexions, il chapeaute un petit peu tous les textes depuis le chapitre 15 avec l'histoire du fils prodigue, jusqu'à notre texte. On avait parlé en Luc chapitre 16, verset 19, « Faire des amis avec des richesses injustes. » Faites-vous des amis avec des richesses injustes, nous commandait Jésus. Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Les richesses en euros n'ont de valeur que sur la terre. Et le riche a manqué son rendez-vous avec Lazare, avec le pauvre Lazare. On ne peut servir Dieu et Mammon, nous enseigne Jésus. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et beaucoup en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En Timothée chapitre 6. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'ait qu'un seul trait de lettre de la loi ne vienne à tomber. La Bible est le seul bien à notre possession qui ait une valeur éternelle. que vous l'ayez sous forme de livre, que vous l'ayez sous forme dématérialisée. La parole de Dieu, ce livre, est ce qu'il y a de plus précieux ici-bas, sur la terre. Le monde passera, pas une seule virgule. Le monde passera avant qu'une seule virgule de la loi de Dieu ne tombe. L'histoire du fils prodigue à Luc chapitre 15. Le fils prodigue, il a été à la fois riche quand il avait de l'argent. C'était le riche. Et puis il est se retrouvé comme le pauvre Lazare quand il n'en avait plus. Dans sa bonté, Dieu peut nous enlever nos richesses pour notre salut, pour que l'on se tourne vers lui. Le pardon, le texte qui suit parle du pardon. Et le pauvre maltraité, humilié, devra pardonner au riche, égoïste, orgueilleux, sans miséricorde, si ce dernier se repent de sa conduite. Voilà un petit peu les textes qui entourent notre parabole et les applications pour aujourd'hui. J'avais introduit ces deux questions un petit peu de l'apologétique. Hein. En commençant tout à l'heure. Pourquoi y a-t-il des riches, des pauvres? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pourquoi Dieu a fait les pauvres? Eh bien, on voit dans notre texte que ce sont pas Dieu qui a fait les pauvres, mais ce sont les hommes. La pauvreté est créée par l'égoïsme, l'indifférence, l'irresponsabilité, l'absence de crainte de Dieu des hommes. La loi enseigne... Il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder un héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris. Dans ce cas, il n'y aura pas de pauvres chez toi. Les crises migratoires que nous connaissons révèlent un monde intoxiqué par le culte des richesses, et les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres, et ce n'est pas le fait de Dieu. Une autre question: pourquoi Dieu ne fait rien devant les inégalités sociales? Alors notre texte enseigne que celui qui n'a rien fait, c'est le riche. Celui qui n'a rien fait, c'est le riche. Dieu, lui, a pris soin de consoler Lazare. Et un jour, Dieu exercera ses jugements. Il y a un texte, un très beau, un dramatique texte dans Apocalypse chapitre 16. Si vous voulez aller le voir, vous pourrez. Versets 1 à 11, où il est question de ses jugements et où il est question d'ulcères. Et où les questions d'hommes qui ne se repentent pas. Autre question. Si Dieu est bon, pourquoi envoie-t-il des personnes en enfer? S'il est bon, pourquoi envoie-t-il des personnes en enfer? Et notre texte nous apprend que Dieu n'envoie personne en enfer. Ce sont elles qui, sur terre, ce sont les personnes qui, sur terre, prennent la direction de l'enfer. Ils en prennent le chemin. Que mes frères ne viennent pas ici, dit le riche à Abraham. Il utilise un verbe actif. Par contre, Lazare, lui, il a été conduit vers Abraham. Mais les frères du riche vont venir, un verbe actif, c'est eux qui viennent là. L'enfer n'est que le prolongement des choix que l'on fait sur cette terre. L'enfer n'est que le prolongement des choix que l'on fait ici-bas. Jésus nous a averti. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Luc chapitre 3, 13, verset 3 à 5. Deux fois, Jésus répète cette phrase. Entrez par la porte étroite, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13. Et la porte étroite, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors, où sont les Lazares français aujourd'hui, en ce 15 septembre 2024? Bon, en France, on a un très bon système social, hein, une très bonne protection sociale, remarquable par sa solidarité, et c'est pas possible d'avoir de Lazare chez nous. Mais quand même, il y a un problème que Jésus souligne. Un problème de déshumanisation. Celui qui était en bonne santé perd de vue que c'est une personne humaine qui a un nom, qui est à la porte pour avoir des soins et de la nourriture. C'est une personne qui a un nom. Et celui qui est dans la précarité, dans la maladie, et qui reçoit les soins, perd de vue également que c'est une personne qui a un nom, qui a payé des cotisations pour que cette nourriture et ces soins puissent être donnés des personnes qui ont des noms. En tant que chrétien, il nous faut lutter contre la pensée ambiante qui nous envahit et qui veut nous convaincre, qui veut nous dire notre prochain n'est pas créé à l'image de Dieu, de sa conception à sa mort. Il faut résister à cela et se rappeler, se souvenir que chaque être humain a un nom. Chaque être humain a un nom, c'est une personne. La Bible est un livre précieux, beaucoup plus précieux, je pense, que tout ce qu'on peut imaginer. Et les textes qu'elle forme sont, psaume 119, la lumière sur notre sentier. Alors, il faut la lire. Il faut lui laisser renouveler notre intelligence, voir les choses comme Dieu les voit. J'ai quelques conseils pratiques pour terminer. Bon, c'est que des conseils. Voilà. Pas de prétention. Mais voilà. Vous l'avez compris, c'est maintenant. C'est tant qu'on est sur la terre des vivants qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut changer. Après, c'est trop tard. Après, plus rien ne change, plus rien ne bouge. Quand nous serons morts, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit et personne, nul, ne connaît l'heure de sa mort. Vous savez cette parabole de ce riche insensé qui avait accumulé tellement de biens et qu'il croyait être peinard. Mais la nuit même, son âme lui a été redemandée et Jésus dit, il n'a pas été riche pour Dieu. C'est maintenant qu'il faut changer. Après, il sera trop tard. La Bible présente trois cercles pour notre responsabilité. Le premier cercle, c'est le cercle familial. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5:8, on a lu ces textes il n'y a pas longtemps. Le cercle familial, le premier cercle de responsabilité. Le deuxième cercle, c'est le cercle de l'Église. Galates chapitre 6, verset 10, Paul écrit ceci. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. La famille spirituelle, après la famille la famille humaine, la famille spirituelle. Et le troisième cercle, dans le cercle de l'humanité, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. Et on a une responsabilité envers l'humanité entière. On ne peut pas rester dans notre coin, rester au chaud dans l'église, alors qu'à l'extérieur, c'est la misère spirituelle. Et peut-être aussi la misère comme notre Lazare ici. Un autre conseil pratique, de chaque fois que c'est possible, de préférer le don quand on fait le don à des associations de taille humaine. Donner à des personnes que l'on connaît personnellement, ça peut permettre de créer ces fameux liens, de créer ces fameux contacts, de créer ces connexions, de créer ces amitiés dont parle le Seigneur. Et bon, même si on perd la réduction d'impôts, dans certains cas, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, la réduction d'impôts, c'est vite plafonné, hein. Je crois que le principal, quand on prend des décisions, c'est de persévérer. Si vous décidez aujourd'hui, pendant ce culte, ok, j'ai compris, je vais donner. Vous pouvez être sûr qu'à la fin du mois, vous n'aurez pas de quoi donner. Certain. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas lâcher. Satan ne va pas lâcher comme cela. Vous lâchez comme cela. Et il va lutter bec et ongle pour garder le contrôle de votre argent. L'argent que Dieu vous a donné, c'est lui qui veut s'en occuper. C'est lui qui veut le gérer. Il est méchant. Alors, c'est une longue lutte qui nous attend. Si l'on veut être généreux, ça va pas se faire tout seul. Ça va pas se faire sans combat. Il va falloir du temps. Mais ça vaut la peine de préparer aujourd'hui l'au-delà. C'est maintenant qu'il faut changer, donc on va prier. Seigneur, ta parole nous rappelle des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, des situations qu'on n'a pas envie de voir, tellement on est bien dans notre confort. Et le monde qui nous entoure ne nous aide pas du tout. Mais tu es là, tu nous as donné ton Esprit Saint, avec que l'on soit fidèle avec dans les questions d'argent, que l'on soit prolifique. Merci pour cette perspective de ces amitiés, de ces rencontres que tu prépares. Ne permet pas que nous soyons des riches qui passons à côté de ce Lazare que tu voulais qu'on connaisse. Aide-nous, Seigneur, à résister à ce courant qui envahit notre égoïsme, qui envahit notre société de superficialité, de ne jamais se poser les bonnes questions et de faire comme si tout va bien. De nous endormir avec des besoins qui n'en sont pas. De nous faire perdre notre temps et notre vie. Et de passer à côté des choses qui sont tellement essentielles et importantes, à savoir les relations humaines. Merci pour Lazare, enfin, que tu as accueilli et consolé auprès de toi. Merci pour cette place que tu lui as donnée dans le sein d'Abraham, dit notre texte, même si on comprend que c'est un endroit où il était bien. Merci pour les pauvres qui ont une facilité d'accès dans le royaume des cieux. Merci parce qu'ils peuvent se tourner plus facilement vers toi. Ils ne sont pas encombrés de tous nos encombrements, de tous nos soucis d'argent et autres, de recherche du confort. Et Seigneur, prends soin de notre Église également, que nous soyons une Église généreuse. Et Seigneur, on a de grands défis devant nous concernant la façon dont nous devons administrer l'argent que tu nous donnes, mois après mois, ici, dans les caisses de l'Église. Donne-nous de la sagesse, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.